mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah.
Parce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4.
Belle et heureuse année à vous. Dicoty vous souhaite plein de joie et de liberté, riche en rencontres avec le végétal. Pour notre part, on a choisi de célébrer cette nouvelle année en présence du feu, cet élément où l'on y dépose des oublis, par-dessus lequel on saute pour se jeter dans une période de renouveau, ou bien que l'on fait naître pour faire disparaître nos déchets de bois, faire cuire nos côtelettes ou bien nos légumes. En écobuage en tant que technique agricole ou lors d'un incendie, notre rencontre avec le feu est presque quotidienne. Aujourd'hui, on rencontre Élise Boutier, anthropologue, dans un café boulevard Longchamp pour qu'elle nous raconte son travail de recherche autour du feu. Entre attachement et imaginaire forestier, méga-feu et incendie, entre la France et les États-Unis. Elle explore comment le feu incendie, en tant que catastrophe, fait émerger plus que tout notre rapport au vivant et au végétal. Comment les enjeux écologiques et les enjeux de gestion des espaces naturels sont intrinsèquement liés. Elle explore comment vivre avec, puis après le feu.
Bienvenue sur Dicotylédonde. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ?
Moi, je m'appelle Élise Boutier et je suis anthropologue. Mes travaux de recherche portent sur les usages et les représentations du feu.
Tu as travaillé essentiellement en Californie. Est-ce que tu peux présenter brièvement l'endroit où réaliser ta thèse en anthropologie ?
Oui, j'ai soutenu ma thèse l'année passée et elle s'appelle La maison brûle, cultiver le déni du changement climatique après un méga-feu en Californie du Nord. Et donc voilà, ça porte sur les conséquences d'un méga-feu, précisément qui s'appelle le Campfire et qui a eu lieu le 8 novembre 2018 en Californie du Nord, donc sur des terrains boisés, donc un peu au nord-est de San Francisco, à plus ou moins une grandeur de route de San Francisco. Donc c'est vraiment des plateaux boisés montagneux. Et ce feu a notamment détruit une ville qui s'appelle Paradise et qui comptait 27 000 habitants. Et une autre ville qui s'appelle Magalia et qui comptait 11 000 habitants. Et après, d'autres villes et villages de vraiment beaucoup plus petite taille. Mais en gros, il y a eu 50 000 personnes qui ont été évacuées ce jour-là. Donc c'est un énorme événement. Ça a eu énormément de conséquences matérielles et humaines. C'est le feu le plus meurtrier de l'histoire de Californie, avec 85 morts. Et moi, j'ai rencontré ce terrain 8 mois après l'incendie, en juin 2019. Et je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que c'est vivre après un méga-feu ? Ça fait quoi au quotidien ? Ça fait quoi dans les structures sociales, politiques, dans l'organisation de la vie de nos institutions, du rapport à son paysage, du rapport au futur, au risque ? Voilà, plein de questions comme ça que j'ai dépliées dans ma thèse, et notamment aussi la question du déni du changement climatique, parce que les incendies dévastateurs comme ça sont vraiment considérés comme une des conséquences du changement climatique direct. Mais moi, ce que j'ai vu sur mon terrain, c'est que les gens refusaient de rattacher leur histoire individuelle à ce récit plus grand du changement climatique, qui était pour eux une fiction, quoi. Donc je me suis aussi demandé comment on peut traverser un événement comme ça, qui est aussi historique, et à la fois ne pas le raconter avec, de cette façon-là.
Et Tu parles assez rapidement du terme de catastrophe. Est-ce que ça a été vécu comme tel par les habitants? Et du coup, qu'est-ce que ça a pu éventuellement... mais qu'est-ce que ça fait ressortir, en fait, en termes... ça décime un paysage, ça le modifie. Quelle forme de récit émerge, en fait?
Plein de formes de récits différentes et qui ne sont pas les mêmes aussi selon la temporalité. Donc, quand moi, je suis arrivée sur le terrain... Donc, assez rapidement, en fait, après l'incendie, 8 mois, c'est pas grand-chose quand c'est une ville entière qui a été détruite, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de déblayer les débris, principalement. Donc, moi, quand je suis arrivée, il y avait encore énormément de débris. C'était vraiment une phase de gestion de l'urgence. Donc, à ce moment-là, les gens ils sont en état de choc assez important. Et oui, en effet, disent que c'est un événement sans précédent, que c'est un événement historique, que jamais ils auraient cru que c'était possible que leur ville disparaisse comme ça dans un incendie, alors même qu'on est au milieu de la forêt. Donc il y a vraiment l'effet vraiment de sidération, de voir se réaliser quelque chose qui n'était pas dans l'imaginaire comme quelque chose de possible. Et puis petit à petit, sur des temporalités plus ou moins longues, mais en tout cas l'évolution de ces récits-là, elle se transforme aussi. Et notamment après l'anniversaire des 1 an de l'incendie, c'est quand même un moment assez symbolique où les choses changent, ou en tout cas il y a aussi la volonté que les choses changent après les 1 an pour qu'il y ait un avant et un après. Et là il y a eu beaucoup plus de récits de personnes, les mêmes personnes que j'avais rencontrées pendant l'été me disaient qu'en fait évidemment qu'elles étaient au courant que ça allait arriver un jour dans leur vie, que de toute façon elles avaient vécu là, elles avaient choisi de vivre là en prenant totalement en considération ce risque. Voilà, comme une façon aussi d'expliquer, de se rendre acteur et actrice de cette catastrophe, et donc de pas non plus être dit qu'on a vécu dans un déni de la possibilité de tout perdre, mais de se dire que c'était un choix qu'on a fait en conscience. Donc les récits, ils évoluent énormément. Et 3 ans après, mon terrain s'est terminé 3 ans après l'incendie. Il y a beaucoup moins de personnes qui reviennent aussi, parce que c'est très dur de revenir habiter là. Et là, les récits, c'est plus de l'ordre d'essayer d'enterrer le souvenir, de vraiment de construire l'oubli pour passer à autre chose et pour pouvoir s'investir dans l'avenir. Cet investissement dans l'avenir, de ce que j'ai vu, moi, passe vraiment par l'oubli, quoi, le déni collectif, la mémoire collective qu'on écrit à sa façon pour pouvoir avancer.
Donc les personnes qui réagissaient dans l'idée de pas se victimiser de la catastrophe, tu dis que c'est une ville qui est implantée dans la forêt, etc. Qu'est-ce que ça traduit en fait en termes de connaissance du milieu peut-être, et d'attachement aussi peut-être à l'image qu'on se fait d'une ville en forêt? Enfin, ça a l'air assez idyllique comme ça, et pourtant...
L'endroit que moi j'ai étudié, mais qui en fait n'est pas... particulier dans le sens où il y a plein d'autres endroits en France, dans le monde, je veux dire, et en France notamment, on peut rapprocher ça par exemple aux personnes qui vivaient dans les Landes, où il y a eu un incendie en 2022. Donc là, le Paradise, c'est vraiment un endroit où il y a une majorité de population de classe moyenne retraitée qui viennent s'installer là au moment du départ en retraite et qui du coup ont vécu leur grande partie de vie de travailleurs, travailleuses dans des métropoles californiennes, donc San Francisco, Los Angeles, San José, San Diego, et qui, au moment du départ en retraite, ont envie de mettre en place la belle vie, de passer leurs vieux jours dans un cadre agréable, justement idyllique, comme tu as dit. Et ça, c'est un phénomène à la fois individuel, c'est un choix individuel, mais c'est aussi des dynamiques sociales. Et ça s'appelle, depuis les années 90 en géographie, la migration d'agrément. Donc le fait de partir en migration pour améliorer sa vie. Donc c'est des migrations privilégiées, puisqu'il faut du capital économique, il faut des papiers déjà, il faut aussi un capital social pour pouvoir incorporer des codes de qu'est-ce que c'est une belle vie. Et donc la forêt, c'est vraiment un endroit qui cristallise très fort ces enjeux-là, de ça fait un cadre de vie agréable, parce que ça... C'est investi de valeurs de sérénité, de tranquillité, d'isolement, mais quand même de proximité avec des services, parce que voilà, c'est une ville de 27 000 habitants, donc il y a un hôpital, il y a plusieurs écoles, il y a des supermarchés, il y a voilà, tout ce dont la classe moyenne a besoin pour vivre, pour soutenir son mode de vie. Et à la fois, c'est dans ce cadre-là qui paraît totalement privilégié. Mais ça implique que du coup, c'est des populations vieillissantes, donc qui n'ont pas forcément la capacité physique, par exemple, d'entretenir leurs parcelles, donc de couper les branches, de nettoyer les gouttières, de prendre soin de l'environnement qui entoure leur maison. Et ça fait aussi que ça donne un rapport particulier à la nature, à la forêt, qui reste un paysage, en fait, au sens vraiment du 19e siècle, où c'est un paysage qui est encadré par un cadre, qui est souvent la baie vitrée. Dans les maisons individuelles, c'est la baie vitrée. Et donc, à travers la baie vitrée, on peut voir plein d'arbres, parce que c'est des vues assez denses. On voit très peu les autres maisons qui sont quand même très proches, mais les arbres sont tellement denses que ça cache les autres maisons. Donc ça donne l'impression d'être un peu la seule personne à avoir accès à ce paysage. Et c'est un paysage privilégié, voilà, qui est socialement investi comme un capital, en fait. Mais ça fait qu'on a très peu de connaissances de ce qui se passe vraiment dans ce monde-là, derrière la baie vitrée. Donc très pragmatiquement, c'est que les gens ne connaissent pas les essences des arbres, ne se promènent pas en forêt, vivent aussi avec des moustiquaires pour que les insectes ne rentrent pas. Donc il y a une vraie séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Les animaux domestiques sortent très peu dehors parce qu'il y a des chacals, il y a des animaux dits sauvages qui ont plus de force que les animaux domestiques. Et donc ça fait qu'il y a vraiment un enfermement de la vie à l'intérieur qui est déconnecté du dehors. Et la forêt, elle sert juste au plaisir des yeux. Donc ça fait un rapport qu'en anthropologie on appelle naturaliste, qui est vraiment la distinction entre la culture humaine et la nature qui est dehors et qui est éloignée et qui ne nous affecte pas, avec lesquelles on n'a pas de relation. C'est absolument faux, puisque le feu montre qu'en fait on est extrêmement interdépendant de son paysage, que la perte de son paysage affecte profondément, viscéralement, dans sa chair, dans sa psyché, les humains qui habitaient ces espaces-là.
Et qu'est-ce que le feu est venu... Enfin, est-ce que le feu, en fait, est venu mobiliser une autre forme d'engagement ou de lien, en tout cas, envers ce paysage ?
Le feu, c'est une catastrophe dite naturelle qui est assez particulière parce que ça met à plat les choses, en fait. Ça détruit... Enfin, ça, vraiment, au sens premier, il n'y a plus de relief. Enfin, les choses se sont réduites en cendres. Donc, ça crée un paysage plat, ce qui est visuellement extrêmement choquant quand voilà, c'est des reliefs montagneux avec différentes maisons, avec justement ce que je disais, les arbres qui cachent les autres maisons. Du coup, là, tout à coup, ça ouvre très fort et ça aplanit tout. Donc ça, c'est le premier choc vraiment de... psychologique et physique, qui est très très dur à emmagasiner, quoi. Enfin, on reste beaucoup quand même dans ce moment-là.
Je te demandais juste qu'est-ce que ça faisait naître, peut-être comme nouveau, ou en tout cas qu'est-ce que ça fait ressurgir comme attitude vis-à-vis des habitants par rapport à justement ce rapport au paysage qui est plutôt naturaliste.
Ben, c'est ça, du coup, après le choc, il y a quand même l'envie très forte de... Donc les arbres restent sur pied, mais souvent la comparaison, c'est que c'est comme des allumettes, quoi. C'est des grands bâtons qui n'ont plus de branches, mais qui sont très très hauts, mais qui n'ont plus de branches, quoi, ni de feuilles et tout ça. Et du coup, là, il y a vraiment l'envie de les couper, parce qu'il y a une très forte appréhension qui tombe. Donc là, les arbres auxquels on était attachés, parce que c'était un cadre rassurant, agréable, du coup, ça devient un endroit hyper hostile, menaçant, qui à tout moment peut aussi venir rajouter une catastrophe sur la catastrophe. Donc il y a vraiment le désir de voilà, faire table rase, quoi, coupe nette du paysage. Donc ça, c'est des choses assez radicales et assez violentes aussi. Et après, il y a des endroits où les arbres n'ont pas brûlé. Donc il y a aussi beaucoup ce qui se passe, en anglais, on appelle ça la cicatrice du feu, enfin, en fait, la trace que le feu a laissée. Donc ça crée quand même une frontière. Il y a des espaces qui sont mitoyens de ce qui a brûlé, mais qui n'ont pas brûlé. Donc du coup, il y a des endroits où qui restent tout vert, avec des maisons, etc. Et donc dans ces endroits-là, ça transforme aussi le rapport à la forêt, où les gens du coup ont beaucoup d'appréhension sur les arbres aussi. Racontaient que maintenant, avant ils les regardaient, ça faisait voilà des sensations de zénitude, d'apaisement, de méditation et tout. Alors que là, maintenant, les regarder, ça leur provoque des crises d'angoisse parce qu'ils les voient bouger et ils voient plus que la menace en fait de cette forêt qui se referme sur eux. Donc il y a beaucoup ça. Après, il y a des choses plus positives qui s'ouvrent aussi. Et souvent, dans les crises, en fait, voilà, ça révèle très, très fort les enjeux sociaux. Et aussi, ça ouvre des portes quoi, qui, jusque-là, paraissaient complètement verrouillées. Et notamment la porte de... est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons d'être en lien avec le feu, en fait ? Est-ce que le feu, justement, est-ce qu'on pourrait distinguer feu, incendie, risque ? Est-ce que, du coup, on pourrait aussi mettre au pluriel le mot feu ? Est-ce que ça serait des feux ? Du coup, il y aurait des feux de différentes natures, de différentes intensités, qui viendraient de différents espaces. Et donc, concrètement, c'est que là, il y a, en Californie, mais en France aussi, après des incendies de catastrophe, il y a des initiatives de personnes qui ont voilà, des affinités plutôt écologistes et qui essayent de remettre au centre le fait que le feu, ça a été vraiment, c'est une construction sociale, le fait qu'on le considère comme un ennemi contre lequel il faut lutter absolument, qui rentre dans toute cette rhétorique de, voilà, assez, de l'armée quoi, militaire, de il faut lutter contre le feu, les soldats du feu, tout ça. Mais que ça, ça a une histoire en fait, sociale et historique. Qui n'a pas toujours été le cas et qu'en fait il y a aussi d'autres espaces dans lesquels le feu peut être un allié et entre allié et ennemi il y a aussi tout le panel que ça déplie au milieu donc voilà ça peut aussi reconfigurer le rapport à la forêt mais aussi à l'élément du feu quoi.
Comment cet événement catastrophique a pu modifier les autres usages du feu donc peut-être expliquer localement, autour de cette ville, quels étaient les usages du feu ? Donc, est-ce qu'il y a des pratiques agricoles dans la région ? Parce que, bon, je ne sais pas si ça existe en Californie, mais bon, les pratiques d'éco-buage se pratiquent dans de nombreux endroits du monde. Est-ce que ça a pu jouer ? Enfin, en tout cas, comment on a perçu cette technique ? Enfin, je sais pas, il y a les feux de célébration aussi. Comment ça rentre dans la reconfiguration des représentations ?
En Californie, l'agriculture, malheureusement, est très industrialisée. Donc, c'est des énormes parcelles qui appartiennent à des compagnies, je sais pas si elles sont multimillionnaires, mais en tout cas extrêmement riches et qui ont plein de succursales différentes, etc. Donc, les pratiques agricoles, c'est vraiment des énormes moissonneuses-batteuses. Sur des milliers d'hectares. Mais par contre, le feu était très fort lié aux populations autochtones. Et la suppression du feu est donc liée à l'histoire coloniale de la Californie et des États-Unis, où les populations autochtones se servaient du feu pour énormément d'usages de chasse, d'ouverture de milieux, de faire repousser certaines plantes ou en éradiquer d'autres, de, en effet, ce que tu disais, célébrations, rituels, mais juste aussi de cuisson, de chauffage, d'éclairage, ce que nous, on a pu avoir dans nos sociétés aussi avant l'électricité, tous les siècles avant, on parlait, les maisons, on ne disait pas que c'était des maisons, on disait que c'était des foyers, parce que c'est le centre de la famille, c'était autour du feu. Donc, en Californie, mais en France aussi, en fait, il y avait des usages du feu dits ancestraux, mais qui, en fait, n'ont pas forcément complètement disparu. Enfin, il y a eu toute la politique coloniale qui a voulu faire les politiques d'extinction, à la fois des peuples autochtones et du feu, qui ont quand même marché, quoi, enfin, qui ont une efficacité génocidaire, donc ça s'est arrêté. Mais ça avait lieu, et de plus en plus, là, il y a des... Enfin, justement, avec le fait que les incendies deviennent des méga-feux, il y a un peu la prise de conscience, mais qui a eu lieu aussi aux États-Unis dans les années 60, de se dire, en fait, en supprimant, en créant des politiques de gestion forestière et de gestion de l'incendie, qui sont vraiment misées sur éteindre le feu à tout prix, éteindre n'importe quel départ d'incendie, il faut l'éteindre, ça fait que la forêt, du coup, est devenue aussi fragile au passage du feu, puisqu'elle ne le rencontre plus du tout. Donc les arbres, les végétations, dès que le feu arrive, c'est un grand choc, alors que de le brûler régulièrement, ça permet de cohabiter, en fait. Et en plus, en enlevant le feu, ça a fait que la forêt s'est densifiée de façon dangereuse, puisque comme le feu arrive et que c'est rare, du coup, c'est forcément une catastrophe, parce qu'il y a énormément à brûler. Le combustible alimente le feu, qui fait que ça devient un feu qui lui-même génère une chaleur bien plus intense que si c'était juste un passage de feu, par exemple, qui resterait sur la litière ou quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup maintenant, mais en tout cas, il y a des endroits, les portes qui s'ouvrent dont je parlais, où des groupes d'initiatives souvent citoyennes ont envie de réhabiliter ces savoirs-là, ces pratiques. Et En Californie, ils disent notamment de rembourser la dette, qui est double, la dette à la fois vis-à-vis de la forêt, qui ne voit plus le feu alors que ça lui appartient, et vis-à-vis des populations autochtones à qui on a interdit de brûler, et alors qu'en fait, c'est des pratiques qu'il faut remettre. En fait, il faut remettre le feu à la forêt, ce qui paraît très dangereux et étrange alors qu'elle vient de brûler dans un méga-feu. Mais voilà, le méga-feu ouvre cette porte de... Peut-être qu'en fait, une des solutions au méga-feu, c'est de remettre le feu dans la forêt.
En fait, du coup, c'est une histoire de transmission de connaissances et de savoir locaux qu'on a, bon, bah, comme dans beaucoup d'endroits, bannis et interdits. Est-ce qu'il y a quand même un dialogue qui s'opère entre à la fois des populations autochtones qui auraient quand même encore ce savoir-faire et bah, ces migrations nouvelles de classe voilà, plutôt moyenne supérieure qui n'ont pas en fait cette connaissance.
Ça c'est l'idéal quoi. Enfin c'est en chemin je dirais. Mais il y a localement des donc du coup là Paradise ça appartient au comté de Butte. Donc Butte ça veut dire la butte quoi. Et là la population autochtone représente 1% de la population. Donc c'est très 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 peu. Mais ce pourcentage là, enfin parmi ce pourcentage là, il y a des personnes assez actives pour faire reconnaître leur savoir traditionnel et les transmettre. Enfin déjà en avoir l'usage. Et participer à leur transmission. Et notamment une personne qui vraiment a eu très fort à cœur de montrer que le feu appartient à ces populations-là et que les populations blanches se mettent en danger en ne renouant pas avec le feu. Et donc essayent vraiment de à la fois récupérer des contrats fédéraux de gestion de forêt pour pouvoir y remettre le feu et aussi de sensibilisation des habitants au fait qu'ils habitent dans un endroit à risque. Mais en fait, ce risque... il est seulement lié au fait qu'il n'y a pas de feu, enfin qu'il n'y a pas eu de mise à feu et que du coup le risque c'est que l'incendie. Donc il y a des liens qui s'opèrent, qui sont fragiles et qui demandent du temps. Et après il peut aussi y avoir cette porte peut aussi brutalement se refermer s'il y a une autre catastrophe par exemple ou si il y a des feux volontaires, enfin en tout cas dans des pratiques d'écobuage ou de brûlage dirigé qui échappent. Qui deviennent des incendies. Là c'est aussi un risque énorme où ça va fermer les possibilités qui sont légèrement en train de s'ouvrir. Très précisément, en Californie, il y a ce qu'on appelle des associations de propriétaires. Ça s'appelle PBA. Donc, des associations de propriétaires brûleurs. Donc, c'est des individus qui n'ont voilà, qui ont pas de statut autre que d'être dans ce collectif, qui s'auto-forment ensemble à la pratique du brûlage dirigé. Et donc, qui s'organisent extrêmement précisément avec des demandes d'autorisation, etc., et de reconnaissance du terrain, mais qui vont, en gros, d'un voisin à un autre pour brûler les parcelles que les individus privés, les propriétaires privés, ont envie de débroussailler avec cet outil-là, qui est hyper pratique, par exemple, sur des endroits totalement escarpés où il n'y a pas de machine possible, ou aussi pour ne pas abîmer le sol, parce que les machines, ça a un truc de compactage hyper fort, ou pour faire justement ce que je disais aussi de sélection d'espèces ou des choses comme ça. Et donc ça, en France, ça n'est pas autorisé parce que les individus ne peuvent pas le faire, mais il y a quand même des éleveurs, par exemple, qui ont le droit de brûler leur pâturage pour ouvrir les milieux, pour faire paître leurs bêtes, et qui utilisent en fait encore ces pratiques-là, alors même qu'on a l'impression que c'est des traditions éteintes, que ça n'existe plus. Il y a beaucoup, beaucoup de régions en France où... ça continue très fort, quoi.
Je vais rebondir après sur ce que tu viens de dire, mais juste, ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot méga-feu. Est-ce qu'on peut peut-être le définir ou donner un aspect un peu plus précis de ce que ça représente ?
Ouais, c'est un terme particulier parce qu'en effet, il a pris comme une évidence par sa transmission médiatique, mais qu'en fait, on n'est pas extrêmement au clair avec qu'est-ce que c'est. Enfin, mis à part que ça mobilise un peu un univers de crainte, de gigantisme et tout ça. En fait, il vient précisément, la première fois que quelqu'un l'a employé, c'est un forestier aux États-Unis qui s'appelle Jerry Williams et qui l'a utilisé en 2013, donc c'est assez récent, et qui l'a qualifié en disant que c'est un feu dont le comportement et les dégâts dépassent tout ce qu'on a vu jusque-là, aussi bien du point de vue des spécialistes que des riverains. Donc ça dit... Enfin, cette première définition, elle dit que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Sauf que le problème, c'est que tous les étés, on a envie d'employer ce terme parce qu'on ne l'a jamais vu. Voilà, un feu qui avance aussi vite, un feu qui fait autant de victimes, un feu qui s'est déplacé aussi rapidement, un feu qui a dépassé les forces de défense de telle manière. Donc, il y a toujours un nouveau critère qui est franchi. Et en plus, le terme mégafeuille vient vraiment du contexte des États-Unis où c'est des surfaces aussi assez importantes parce que le territoire est très très grand. Ce qui est difficile du coup à remettre à l'échelle de la France et de l'Europe parce qu'on n'a pas de telles surfaces qui sont brûlées. Et donc en France et en Europe, on préfère, enfin, il y a d'autres termes qui permettent de se distinguer du contexte états-unien, qui sont des feux extrêmes, des feux de grande ampleur ou des grands feux. Mais après, voilà, il y a des débats scientifiques qui qualifient ces différents termes. Mais en fait, c'est des synonymes assez équivalents. Et si on a envie de laisser le méga-feu aux États-Unis pour la surface que ça représente, on a d'autres termes à notre disposition, quoi.
Dans les pratiques, là, ces débuts de pratiques et de dialogue, en tout cas de populations qui ont des usages différents du territoire, tu disais que ça se manifestait à travers ce type d'association d'individus. Est-ce qu'il y a d'autres, enfin, ça s'incarne dans d'autres choses, peut-être plus informelles ou même dans, plus intimement, ce que les individus vont dire de leur attachement à ces paysages, à ce territoire, à la forêt, en fait. Tout à l'heure aussi, tu parlais des essences d'arbres qui n'étaient pas connues.
Les essences d'arbres, c'est des forêts de conifères où il y a beaucoup de pin douglas, parce que voilà, c'est un bois qui sert à l'industrie. Mais il y a aussi... Le problème, c'est que j'ai mal traduit les termes que j'ai beaucoup entendus aux États-Unis. Mais il y a aussi, je crois que c'est des cèdres.
Donc plutôt de la forêt qui a été plantée.
Ah oui, de la forêt totalement plantée. Ah oui, c'est de la forêt plantée. Les arbres ont quasiment tous le même âge, font quasiment tous la même taille. Oui, de la forêt plantée. C'est pas du tout une forêt plantée de conifères.
Bah, par rapport aux pratiques là, de transmission des savoirs plutôt locaux, on parlait de l'association des habitants. Est-ce que ça s'incarne dans d'autres pratiques, ce volet de transmission, plus informel, quoi?
Non, de façon plus informelle, il n'y a pas tellement... C'est déjà un réseau... Non, c'est un réseau constitué, donc qui est formel, mais c'est déjà un réseau mal connu, en fait, plutôt qu'informel. Donc c'est déjà quelque chose d'assez niche qui essaye de bénéficier de la visibilité du méga-feu pour justement être plus visible sur d'autres pratiques et d'autres façons d'être en lien avec le feu. Mais ça reste des choses assez ponctuelles. Et après, voilà, c'est un territoire aussi... Enfin, en tout cas, à Paradise, c'est un endroit où c'est plus de 80% de la population qui est blanche. C'est là où est né le premier bastion du Ku Klux Klan californien. Donc c'est un territoire assez marqué socialement et politiquement, où les idées écologistes ne sont pas forcément les bienvenues et sont même totalement dénigrées. Et donc ces pratiques-là rentrent quand même dans des dynamiques sociales plutôt de gauche, voire d'extrême gauche. Et donc, ce n'est pas des choses sur lesquelles qui rameutent beaucoup de gens et donc qui essayent de trouver des cadres légaux dans lesquels elles peuvent continuer à faire le peu de ce qu'elles font. Mais c'est quand même beaucoup de maintien d'un tout petit espace en vie qui essaye de s'étendre, mais qui est quand même dans un territoire hostile à ce qu'elles font, quoi. Après, en France, Enfin, du coup, là, j'ai parlé de l'extinction en Californie, vraiment le feu comme ennemi et tout, mais en France, c'est exactement la même chose qui s'est passée au 19e siècle. On a vraiment... Enfin, il y a eu une construction entre... Enfin, une différence entre les élites urbaines et les pratiques paysannes, qui utilisaient le feu pour les pâturages. Et de plus en plus, et aussi avec l'essor de l'impérialisme, il y a eu la volonté de civiliser ces espaces-là, aussi bien dans les territoires colonisés que dans les territoires ruraux, enfin qui avaient un peu le même qui n'ont pas le même statut, mais qui en tout cas étaient perçus de la même façon comme des endroits de pratiques diaboliques et qu'il faut lisser, quoi. Il faut et donc voilà, les élites ont vraiment travaillé à dénigrer les pratiques paysannes, et le feu en faisait partie. Et donc il y a eu beaucoup de législation sur l'interdiction de l'usage du feu en forêt, en ruralité, en montagne. Et ce qui a fait que ça s'est aussi un peu perdu, mais quand même pas... Je ne sais pas si ça peut se comparer, mais en tout cas, un petit peu moins qu'aux États-Unis, puisque voilà, des éleveurs ont quand même toujours continué à faire ça, l'ont transmis à leurs enfants, l'ont transmis à leurs voisins. Donc, en France, il y a moins ce réseau formel, mais discret. Mais par contre, il y a plein d'individus, d'initiatives, de liens avec, où les gens sont restés en lien avec le feu... individuellement dans leur pratique d'élevage, quoi.
Enfin, est-ce que tu peux détailler un peu plus peut-être les politiques de gestion de feu en France?
En France, c'est Du coup, il y a voilà ce que j'ai dit au 19e siècle où il y a eu la législation sur l'interdiction de l'usage du feu. Et puis, il y a eu un deuxième mouvement dans les années 50-60, d'à la fois construction de l'ONF, donc l'Office national des forêts, qui est l'organisme d'État qui gère les forêts publiques domaniales, et en même temps la professionnalisation de la lutte anti-incendie, qui avant appartenait plutôt au... Enfin, l'incendie, en fait, qu'est-ce qui vient menacer ? Il vient menacer des intérêts économiques, qui sont des plantations d'arbres, comme ce que tu as dit tout à l'heure. Et ça s'est, en France, ça s'est manifesté dans deux régions différentes. Dans le Var, donc dans le massif des Maures et de l'Estérel, avec les chênes lièges, qui voilà, rapportent beaucoup d'argent. Et dans les Landes, avec les massifs de pins, qui sont des forêts plantées et qui rapportent, elles aussi, de l'argent. Et donc, dès qu'un incendie rentre dans une de ces deux plantations, ça fait perdre de l'argent aux concessionnaires. Et donc, en 1877 précisément, il y a les professionnels, enfin les concessionnaires de chênes lièges des massifs du Maure et de l'Estérel, qui se sont mis en syndicat pour faire pression auprès de l'État, pour mettre en place des politiques d'interdiction de feu et d'aide à la lutte contre l'incendie, donc de construction de routes pour pouvoir y avoir accès en temps de crise, et de construction de pare-feu aussi, donc construire des buttes en sable ou en différents matériaux pour tenter de ralentir la progression d'un feu. Donc c'est assez vieux, mais après ça s'est professionnalisé suite à un incendie qui a eu lieu dans les Landes en 1949, qui a énormément détruit les plantations de pins. Et c'était les propriétaires privés qui se rassemblaient ensemble pour éteindre le feu. Donc vraiment, il y a un documentaire qui raconte cette histoire avec un parti pris qui est très fort marqué sur le feu comme un ennemi, une bête qui dévore de sa gueule avec des milliards de flammes. Donc il y a vraiment très très fort encore cet imaginaire du feu comme ennemi, mais qui raconte aussi très bien comment est-ce que les gens allaient éteindre le feu, enfin que c'était les hommes du village avec leurs bicyclettes et différents outils qui avaient un savoir en fait d'extinction du feu. Donc aussi de connaissances, parce que du coup, il faut comprendre comment ils se déplacent, où est-ce qu'on se met en danger, où est-ce qu'on ne se met pas en danger, s'ils sautent tel ravin, est-ce que ça va le ralentir ou pas. Donc il y avait quand même un lien, en fait. Et suite à cet incendie, il y a eu la volonté de professionnaliser un corps de sapeurs-pompiers à qui appartiendrait cette mission-là. Donc ça date des années 60. Et ça a mis en place aussi tout ce qu'on appelle maintenant la DFCI, qui est la défense des forêts contre les incendies. Et parfois, en colline, on voit des panneaux qui sont rouges et DFCI, c'est écrit en blanc. Donc, ça, c'est aussi un dispositif de gestion d'aménagement du territoire, de construction de routes, de construction de pare-feux, etc., de positionnement de bornes à eau, tout ça, que peuvent emprunter les pompiers. Et les pompiers sont donc ce corps spécialisés, qui sont sous la tutelle à la fois du ministère de l'Agriculture, puisque la forêt, elle appartient au ministère de l'Agriculture, et du ministère de l'Intérieur. Donc, ils sont aussi un corps armé, en fait. Et ces deux tutelles font que ça devient les seuls spécialistes de la lutte anti-feu. Et donc, ça a coupé le reste de la population, aussi bien les concessionnaires de pins qui, eux, en fait, savaient s'auto-organiser et savaient lire ce qui se passait dans le paysage quand il y avait un feu. Ça a coupé tout le monde, en fait, de la possibilité d'interagir avec un feu quand il est là. Ça les a responsabilisés très fort et ça a eu la conséquence de déconnecter toutes les autres personnes, de s'en remettre absolument aux pompiers. Ce qui fait qu'on vit dans des sociétés où la peur du feu, elle est presque viscérale, alors qu'en fait, c'est une construction sociale.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Particulièrement, tu as rencontré une structuration quoi, de professionnels qui sont dédiés à la gestion du feu. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, nous dire où ça se passe ?
Ouais, alors ça s'appelle c'est le réseau du brûlage, non, le réseau de l'emploi intégré du feu, REIF, qui avant s'appelait le réseau brûlage dirigé et qui est né dans les années 80 à l'initiative de chercheurs en fait de l'INRAE, qui est l'institut de recherche sur l'agronomie, je crois. Et enfin, de chercheurs d'INRAE, du coup, ça a pu avoir un côté expérimental, recherche scientifique et institutionnelle, et aussi de pompiers. Et ça rassemble, aujourd'hui, je dirais des bêtises, mais je pense que ça rassemble entre 200 et 300 personnes qui sont des professionnels qui utilisent le feu, donc à la fois des pompiers et des éleveurs, et une petite poignée de chercheurs-chercheuses qui étudient les impacts du feu. Donc plutôt des écologues, par exemple, qui voilà, regardent à quelle intensité le feu détruit telle essence, à quelle régularité le feu est bénéfique ou non, et aussi dans des histoires d'archéologie, sur des très 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 longs termes passés. Et aujourd'hui, voilà, ce réseau permet donc se réunir une fois par an, sur quelques jours, dans une des régions d'un des membres du réseau. Donc c'est pas tout.
C'est un réseau national.
C'est un réseau national, ouais. Toutes les régions n'en font pas partie parce que du coup toutes les régions n'utilisent pas le feu. Mais aujourd'hui il y a ce qu'on appelle, enfin il y a 32 cellules de brûlage dirigé qui sont en fait du coup des organismes qui sont dirigés soit par les pompiers soit par les éleveurs et qui permettent, qui forment des gens au brûlage dirigé. Donc le brûlage dirigé c'est ce qu'on peut appeler parfois éco-buage, mais en fait c'est juste le fait de utiliser le feu. Sur une parcelle et en se déplaçant avec lui. Donc on ne brûle pas un tas de bois, quoi. On brûle en mouvement.
Donc c'est un feu qui est mis... Enfin, on lance le feu volontairement.
Oui, on lance le feu volontairement, souvent dans un optique de débroussaillage ou d'ouverture du milieu. Par exemple, en Ardèche, il y a énormément de genêts, c'est dans les montagnes ardéchoises, et donc le feu, à un moment précis de la croissance du genêt, il ne faut pas qu'il fasse déjà 4 mètres de haut parce que ça ne sera pas possible. Mais en tout cas, à un moment où c'est possible, le feu peut permettre que le genêt ne repousse pas ou repousse beaucoup plus lentement. Et en tout cas, après, de mettre des animaux qui vont manger les dernières racines du genêt. Et donc, le milieu sera dit ouvert, quoi. Donc ça, c'est le brûlage dirigé. Et les pompiers, les cellules de brûlage dirigé forment les gens, forment les pompiers ou les éleveurs à cette pratique-là. Donc c'est des savoirs qui, et à la naissance du réseau dans les années 80, en fait, il y a deux personnes qui sont allées se former en Californie pour ramener les savoirs de brûlage dirigé qui étaient du coup en train d'être un peu plus visibilisés pour les ramener en France parce que du coup, il n'y avait pas d'endroit, enfin, il y avait peu de ressources en France pour savoir comment est-ce qu'on fait, en fait. Donc les techniques de... créer d'abord une lisière, donc créer un espace avec un râteau pour un espace assez large sur lequel il n'y a pas de végétation qui permet de s'appuyer. Enfin, c'est ce qu'on appelle une zone d'appui pour que le feu ne déborde pas cette place-là. Dans quel sens est-ce qu'on brûle ? Est-ce qu'on brûle de la montée à la descente ? Être sensible aussi à l'hydrométrie, à la température, à l'atmosphère, etc. Ça, voilà, c'est des gens qui ont ramené ces techniques-là, en fait, en tout cas, ces protocoles-là de Californie. Et aujourd'hui, bah, c'est ces 32 cellules qui, les éleveurs peuvent, sont soit à la disposition des éleveurs. Donc, les éleveurs auraient besoin de brûler, mais ils ne savent pas le faire parce qu'on leur a... Voilà, soit c'est des jeunes éleveurs qui se sont installés, soit ils ont déjà fait et ça leur a échappé, ils ont eu peur. Soit c'est un endroit assez technique, escarpé, donc du coup, ils ont besoin d'aide, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, ils peuvent demander à la cellule brûlage dirigée de venir chez eux pour réaliser le brûlage. Ou alors, c'est des brûlages dits DFCI, donc en prévention d'un incendie. Donc, enfin, les pompiers disent en traitement d'une zone pour que, amoindrir sa puissance de combustible, quoi.
Alors, ce genre de réseau, bon, ça implique à la fois des éleveurs et des pompiers. Mais comment c'est reçu aussi par les populations locales qui vivent en milieu forestier ? Enfin, tu as cité le massif des Morts, de l'Esterel, qui sont quand même des massifs forestiers très habités, avec des habitants qui ont une pratique forestière, dans le sens où il y a de la cueillette.
Ouais, bah, c'est très... Donc pour l'instant, là, je vais juste rapporter les paroles des brûleurs, quoi, qui se sont confrontés à ça, parce que moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'auraient donné leur point de vue sur ça. Mais en tout cas, il y a quand même une limite très forte qui est la production de fumée, qui gêne dans les paysages, enfin, qui gêne d'un point de vue de la santé, voilà, mais en fait, peut-être pas forcément, en tout cas, selon l'inclinaison du vent, la densité de l'atmosphère, etc. Mais ça, c'est très vite perçu comme un danger pour sa santé, mais aussi le signe que c'est un incendie. Donc du coup, c'est difficile pour les populations de dissocier fumée d'un feu, d'un brûlage dirigé qui est contrôlé, qui est un processus en cours, et fumée de « je dois absolument appeler les pompiers pour faire mon devoir citoyen ». Donc ça, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi pas mal de réticences. Enfin, il y a une difficulté à faire du lien avec des associations écologistes qui perçoivent le brûlage comme étant néfaste à la faune et la flore locale sur des choses très fragiles, très spécifiques, qui pour les pompiers devraient passer après le fait que globalement le brûlage est quelque chose de bénéfique pour la forêt et non pas spécifiquement pour telle espèce. Ça, après, voilà, c'est des luttes entre écologistes et techniciens qui sont hyper difficiles à résoudre parce que c'est des compromis entre voilà, la prévention, l'écologie, c'est tendu. Et localement, ce que j'entends aussi, c'est que les gens, y a quand même des gens qui brûlent, mais il y en a quand même de moins en moins. Et donc, dès que quelqu'un brûle, y a quand même une tension quoi, dans l'espace dans lequel la fumée est visible ou même juste l'odeur, quoi. Mais ça dépend des régions. Après, dans les Pyrénées-Orientales, en France, c'est la région où il y a le plus d'éco-buages à l'année. Et jusqu'à récemment, ou peut-être encore aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre, c'était la région qui brûlait le plus en Europe. Et donc, il y a des 3 jours par an. Chaque jour, il y a plus de 30 chantiers de brûlage dirigés. Donc, c'est énorme. Donc là, c'est un endroit où c'est beaucoup plus accepté. En tout cas, accepté, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a plus de familiarité avec ça, quoi.
Quand on a l'habitude de voir, d'entendre... Il y a quelque chose qui sonne moins... Oui, c'est moins une alerte, une alarme au risque dans nos psychés, quoi.
Bah ouais, totalement. Bah, y a vraiment un vrai enjeu à déconstruire... Enfin, à déconstruire cette alarme-là, mais aussi à être capable de faire la part des choses entre justement le moment où quand même il faut s'alarmer et d'autres moments. Enfin, il y a des zones... Justement, c'est un panel, en fait. Le feu, il a des natures différentes, il a une façon de se manifester, des façons de se manifester très différentes. Et donc, il faut qu'on arrive à réincorporer la lecture du feu et à savoir comment est-ce qu'on peut y réagir. En effet, il y a des feux qu'on peut laisser brûler. En Californie, il y a beaucoup ce terme-là de laisser brûler, où l'équivalent de l'ONF laisse brûler des feux dits naturels. Ça, on n'en a qu'en Corse. Nous, c'est des feux qui sont allumés par des éclairs. Donc en Californie, il y a cette technique de laisser brûler ces feux-là parce que ça arrive dans des espaces pas du tout habités, hyper montagneux, très denses en végétation. Et donc du coup, le feu va aussi brûler un peu, et en hiver surtout. Donc le feu va brûler, puis s'éteindre après les pluies et tout ça. Et donc on pourrait laisser brûler certains feux, mais il faut pouvoir être capable aussi de faire confiance à ses sens sur est-ce que ça c'est un feu qu'on laisse brûler, est-ce que ça c'est un feu qui est en train de s'accélérer et qui va peut-être se ralentir un moment, est-ce que c'est un feu qui va qui a l'air allié mais qui en fait en 2 secondes peut devenir complètement diabolique, c'est aussi possible. Mais pour apprendre à faire confiance à ces sens-là, il faut qu'on retrouve des espaces où on est en lien, où on est en contact, en fait, où on apprend à voir ce que ça nous fait d'être près du feu. Enfin, par exemple, pour une anecdote assez personnelle, moi, j'ai participé à un brûlage dirigé par l'association californienne dont je parlais. Et c'est très étrange parce que, voilà, on ne m'a pas du tout demandé quel était mon lien avec le feu. Juste, c'était l'organisation du chantier, tu vas dans telle équipe, tout ça, ça. Enfin, très bien accueilli, hein. Mais juste la première, moi j'étais dans l'équipe de mise à feu, donc j'avais une torche et il fallait que je mette le feu sur la litière. Mais ça m'a procuré une terreur hyper forte parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Ça me paraissait totalement délirant d'aller mettre le feu à la forêt et du coup d'être très proche du feu. Enfin, c'est une torche qu'on tient au bout du bras et donc qui est très lourde en plus, donc qui souvent frôle la cuisse, quoi. C'est un mouvement de balancier d'avant en arrière. Et je me disais, mais en fait, mon pantalon... Enfin, j'avais des images de films, par exemple, d'humains qui s'embrasent comme ça et qui sont une sorte de poupées qui courent toutes brûlées avec plein de femmes, quoi. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que j'avais beau agiter ma torche, il y a plein d'endroits, le feu ne prenait absolument pas, en fait. Et donc, c'est pas si facile d'allumer un feu. Enfin, et par contre, il y a d'autres endroits où le feu prend, et prend très, très vite, et nous prend aussi de court. Et donc, il faut aussi apprendre à sortir de cette zone, à demander de l'aide aussi, quoi. Mais du coup, cette expérience-là, moi, m'a fait vraiment dire qu'on n'a pas d'endroit où faire l'expérience de ce que nous fait le feu. D'admettre à l'épreuve sa peur, et aussi, on peut rester dans un espace de peur, ce n'est pas un problème, mais en tout cas, de faire cette expérience-là, quoi, qu'est-ce que ça vient nous faire en émotion, en sensorialité, le fait d'être si proche du feu.
On est à Marseille, donc je pense que... On ne peut pas faire l'économie de parler du feu passé dans le massif du Rove cet été vers l'Estaque au nord de Marseille. Et on a eu beaucoup de mouvements de la part des habitants du territoire vis-à-vis de cet événement. Voilà, donc il y a l'association Le Bureau des Guides avec qui tu collabores qui a mis en place un projet qui s'appelle l'École du Feu. Est-ce que tu peux brièvement nous dire de quoi il s'agit, comment ça opère sur le territoire aujourd'hui?
Oui, du coup, le feu, il a eu lieu le 8 juillet 2025 et il a détruit, il a rendu inhabitable 90 maisons entre l'Estaque, la cité de la Castellane et Septem, donc plusieurs territoires différents avec des sociologies différentes. Et assez rapidement, le Bureau des Guides a proposé une réunion en extérieur, parce que c'est une association culturelle et d'éducation populaire qui promeut vraiment la transmission de savoir par le fait de se rendre physiquement dans les espaces. C'est pas une conférence qu'on écoute dans un auditorium aseptisé, mais c'est de faire l'expérience physique et concrète d'aller à la rencontre du territoire. Donc il y a eu une première réunion assez rapidement en juillet de rassemblement autour de la question de que faire avec le feu, comment vivre avec le feu, donc qui était assez osé parce que c'était vraiment, je crois, 2 ou 3 semaines après l'incendie. Mais ça a rassemblé beaucoup de gens qui étaient assez intéressés de se dire, en fait, c'est vrai, comment on vit avec ça, parce que ça va, c'est pas la première fois déjà qu'un feu arrive à l'Estaque, ça va pas être la dernière fois. Et donc, il est peut-être temps, au lieu de se barricader, à se dire, je vais mettre un extincteur de plus, je vais mettre des bornes à incendie. En fait, ce feu, il va traverser ce territoire, donc il faut qu'on arrive à vivre avec lui, quoi, à voir qu'est-ce que ça nous fait. Et là, le Bureau des Guides a mis en place un projet de recherche-action qui s'appelle l'École du Feu, et qui a donc ça rassemble ces habitants là et le Bureau des Guides et moi et deux autres personnes aussi qui ont un statut de chercheur associé. Donc il y a Jordan Skrupak qui est un paysagiste qui est à Marseille aussi. Et Garance Maurer, qui est une artiste designeuse. Et ensemble, avec les habitants, c'est vraiment l'idée de à la fois monter en compétence sur les outils juridiques et urbanistiques de gestion du risque et de l'aménagement du territoire, et aussi de créer des espaces où on peut faire l'expérience des savoirs du feu. Et pour essayer de, non pas avoir des réponses, mais en fait explorer la question de comment vivre avec le feu. Et ça, là, pour l'instant, c'est passé par des réunions où on discute, on se pose des questions, des rencontres avec des experts, donc des gens qui ont des connaissances botaniques très précises, des aménageurs du territoire. Jordan a beaucoup transmis de choses aussi sur les paysages, les outils juridiques, les différentes possibilités de s'organiser, etc. Et donc aussi d'essayer de digérer ensemble toutes ces connaissances, et non pas pour avoir un guide protocole qu'on mettrait en place de façon au pied de la lettre, mais juste de déployer en fait toutes ces questions, d'avoir un panel de réponses différentes. Et voilà, et aussi des marches qu'on a fait. On a fait trois balades, enfin une par mois en fait, et jusqu'en juillet. Pour l'instant, c'est prévu comme ça jusqu'en juillet. Une balade par mois, où aller à la rencontre de ce territoire-là, de personnes qui ont vécu le feu, ou alors on a rencontré quelqu'un qui a vécu les trois feux de l'Estac. Alors je vais les dire dans le mauvais ordre, mais il y en a eu un en 2001 et un autre dans les années 90, mais je ne sais plus la date exacte. Et du coup, voilà, lui, là, il a des oliviers qui sont la première ligne. Enfin, il y a la colline, les oliviers, puis sa maison. Donc, c'est vraiment la lisière, elle est vraiment incarnée par ces oliviers. Et les oliviers ont traversé les trois feux. Donc, on fait comme une ligne coupe-feu. Et du coup, il a pris énormément soin de ces oliviers-là et il a acquis un savoir historique végétal sur ce que font les oliviers à la fois de protection, de ralentissement du feu, de contournement et de comment voilà, à la fois rendre hommage à ces arbres-là et continuer à pouvoir bénéficier de leur protection aussi, quoi.
Est-ce que, pendant ces balades, quel discours en fait émerge du vécu du feu par les habitants ? Enfin, qu'est-ce que ça traduit comme imaginaire un peu local, juste pour réincarner un peu ce feu-là particulièrement ?
Ben, il y a beaucoup de. Pour l'instant, c'était quand même beaucoup de. En fait, non, ça a pas mal évolué. Au départ, il y avait très peu de personnes qui avaient perdu leur maison, par exemple, qui avaient des voisins qui avaient perdu des maisons ou qui eux-mêmes avaient perdu des choses dans leur jardin, mais pas l'habitat. Parce qu'en fait, après un feu, il y a un moment où on doit refaire ses papiers d'identité, refaire une carte SIM, retrouver les contacts, les numéros de téléphone des gens qu'on avait écrits sur un bout de papier qu'on n'a plus, contacter l'assurance, attendre pendant des heures à la mairie pour avoir des réponses. Donc il y a énormément de choses. Les gens n'ont pas le temps d'aller dans des collectifs pour marcher en colline, quoi. C'est pas la priorité. Mais en décembre, voilà, il y a eu de plus en plus de sinistrés vraiment qui nous ont rejoints. Donc il y a quand même une volonté aussi de... Enfin, je sens une dynamique de réapprentissage ensemble à essayer de construire un récit autour de cet événement-là et d'apprivoiser le traumatisme collectif et individuel. Enfin, en tout cas, de faire résonner le traumatisme individuel avec le fait d'être en collectif permet un peu de soigner quand même, de soulager, en tout cas à des endroits. Donc ça, l'école du feu, pour l'instant, elle a aussi quand même un peu cette vocation-là à accueillir et à faire en sorte de ne pas directement parler du jour J et des récits traumatiques de qui a fait quoi, à quelle minute et à quel moment est-ce qu'on s'est rendu compte que sa maison avait brûlé, etc. Mais plus de se mettre en mouvement, en processus, pour non pas aller de l'avant, être résilient, mais en tout cas mettre au travail cette matière-là qui, au lieu de rester tétanisante et immobilisante dans le trauma, de déplacer certaines choses, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment une mise en route de se mettre en connaissance ensemble. Et en fait, quand on apprend en collectif, ça va beaucoup plus vite. Enfin, on retient bien plus les choses quand on les a discutées ensemble et qu'on s'est posé la question. Là, la dernière réunion, c'était il y a une semaine, je crois. Et il y avait une grande question sur le pistachier lance-disque qui, quand il est petit, permet d'avoir un terrain voilà, qui est, sur lequel il y a du vivant. Et donc, du coup, le feu est un peu moins... du coup, c'est un arbre qui est humide, etc. Donc, le feu se ralentit un petit peu. Mais quand il grandit, il est un peu plus arbuste. Et donc, du coup, là, il devient une sorte de brasier plus dangereux. Et quand il est grand, ben là, ça fait un vrai arbre qu'on peut tailler. Donc, du coup, ses branches basses ne font pas ce qu'on appelle l'échelle du feu, ou sur lequel le feu monterait comme une échelle jusqu'à la cime et prendrait en intensité et en plus potentiellement mettrait en danger la vie de l'arbre. Mais du coup, il y a cet entre-deux, l'arbuste, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Donc, le pistachier, il est bien quand il est petit, quand il est grand, mais il n'est pas bien quand il est au milieu. Et donc, on fait quoi de cette information ? Et là-bas, cette information est aussi assez catégorique. Enfin, ça a l'air protocolaire, quoi. Et en fait, le vivant, on ne l'aborde pas comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Donc, il y a vraiment beaucoup ces discussions-là d'essayer d'explorer tout le trouble qu'on a face au vivant, parce qu'on a besoin de réponses. Est-ce que le feu, c'est bien ou pas bien ? Enfin, on a envie de savoir ça et de passer à autre chose. Et en fait, on ne peut pas passer à autre chose. Il faut qu'on déplie cette question-là de c'est quoi le feu ? Ça fait quoi ? À qui ? Et qu'en fait, c'est pas la réponse qui est forcément importante, c'est vraiment le processus de questionnement. Et donc, l'école du feu, c'est vraiment ça, c'est se mettre en question ensemble, confronter ces interprétations aussi, parce que du coup, il y a pas mal d'experts, de botanistes, etc., qui sont venus nous raconter des choses. En fait, on n'entend pas du tout la même chose quand on écoute, parce qu'on n'a pas les mêmes paysages en tête, on n'a pas la même configuration de l'espace. Et donc, du coup, on n'a pas entendu la même chose. Et donc, quand on se remet à dialoguer ensemble sur justement ce lentiste qui m'a dit que c'était bien ou pas bien quand il était petit, enfin...
Pour finir, peut-être une question un tout petit peu plus personnelle. Toi, par exemple, quel est ton lien au feu? Comment tu t'es retrouvée à cheminer autant auprès du feu quoi, ces dernières années, finalement?
Je ne sais pas vraiment. Je me pose vraiment cette question. Mais... Je sais pas, vraiment, je sais pas dire. C'est marrant parce que je pose cette question aux pompiers que je rencontre et ils savent pas me répondre non plus. Du coup, je me dis, mais quand même, ils pourraient répondre, il y a un truc. Mais du coup, maintenant que je suis dans ma, c'est à mon tour, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, depuis que je travaille sur le feu, j'ai l'impression que je vais perdre une maison dans le feu. Donc maintenant, c'est devenu une obsession personnelle ou une paranoïa. Je sais pas si c'est de la lucidité ou de la paranoïa. Mais il y a vraiment cette chose qui me hante un peu de. Ça me paraît tellement. Normal et réel et proche que voilà. Mais sur l'élément feu en soi, je pense que il s'est renvoyé quelque chose dans le brûlage là, que je racontais, où je me suis vraiment dit que j'avais aucune connaissance, que j'avais rien, quoi, j'avais pas de lien. Et ça m'a fait un truc très vertigineux de me dire, mais en fait, j'ai raté des choses, il me manque des choses et je sais même pas que ça me manque. Donc je pense de travailler avec le feu, il y a aussi ça, d'essayer d'apprivoiser ce vide qu'en fait, on a tous, enfin, en tout cas, en urbain et tout ça. Et ça fait quoi cette mise au travail-là, quoi. C'est vraiment un truc de curiosité aussi sensible, quoi.
Merci.
Merci à toi.
Et voilà, Dicoty, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez écouté Light My Fire de The Doors, 1967. On vous dit au mois prochain. Bonne écoute et à bientôt.
Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédon d'onde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethno-botanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles sont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois, parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4.